Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Mathilde Immer et Jérôme Lavrieux. On vous attend également nombreux au 32-16 et sur l'application RMC pour parler des voisins. Bah oui, plus de la moitié des Français échangent avec leurs voisins via des groupes de mails ou des groupes WhatsApp. Mais est-il vraiment nécessaire d'avoir de bonnes relations avec ses voisins? Dites-nous comment ça se passe au 32-16 ou sur l'application RMC. Rémi Barré se fera un plaisir de lire vos messages. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. Amélie Rosic qui va tenter d'aider des parents d'enfants handicapés qui ne peuvent plus aller à l'école depuis la rentrée. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il y a quoi, Rémi?
On parlera notamment des trottoirs qui seront peut-être bientôt exclusivement réservés aux piétons. Et puis pourquoi la rentrée scolaire se fera le 3 janvier? J'ai des explications.
On vous expliquera tout ça.
Parce que c'est pas qu'on peut comprendre.
RMC Estelle Midi.
13h59 sur RMC, on va tout de suite débattre autour du chiffre du jour. 57% des Français échangent avec leurs voisins via des groupes WhatsApp ou des groupes de mail. Une tendance accentuée par la pandémie pendant laquelle on s'échangeait des services entre voisins. Mais garder de bonnes relations de voisinage n'est pas toujours facile. Rémi, est-ce que les Français s'entendent bien avec leurs voisins?
Oui, très majoritairement. C'est ce que nous dit un sondage réalisé par l'Institut BVA. Dans le détail, 81% des personnes interrogées déclarent bien s'entendre avec leurs voisins. Parmi eux, 23% auraient même de très bonnes relations avec les personnes habitant près de chez eux. Les attentes restent très raisonnables dans le domaine. 41% des sondés souhaiteraient un coup de main ponctuel de la part de leurs voisins. Voilà, ça c'est des bonnes relations. 36% n'attendent qu'un simple bonjour. Près de 9 Français... ça suffit parfois. Près de 9 Français sur 10 seraient d'ailleurs prêts à donner une heure de leur temps chaque mois pour rendre service à leurs voisins. Ceux qui déclarent avoir le plus d'affinité sont les personnes de plus de 65 ans, les habitants de la campagne, oui, c'est ce que nous dit le sondage, et les propriétaires de maisons. Pour le reste, seuls 6% des personnes interrogées déclarent avoir de mauvaises relations avec leur voisinage.
Et mais 13... c'est eux qu'on veut entendre.
Oui. Et 13% n'en ont tout bonnement aucune. Des chiffres qui varient en fonction des régions. C'est dans le centre Val-de-Loire, le Grand Est et l'Occitanie que les relations seraient les meilleures. C'est moins vrai, paraît-il, en Normandie, en Bourgogne, dans les Hauts-de-France et en Franche-Comté.
Alors, faut-il faire copain-copain avec ses voisins? Vous êtes pote avec vos voisins, Perico?
Alors moi, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous demandez à ce qui... Vous dites qu'il faut avoir de bonnes relations ou est-ce qu'on peut avoir de bonnes relations?
Quelle relation vous avez, vous?
Mais ça dépend du voisin.
Si c'est un con, vous n'en avez pas 15.
Si c'est un con, si c'est un emmerdeur, vous l'évitez. Mais moi, pour l'instant, j'ai toujours eu de bonnes relations avec, sauf autrefois.
Mais c'est important ou pas pour vous?
Mais c'est fondamental.
Ah bah voilà.
Je vois dans les pays comme l'Espagne ou l'Italie, il y a tout de suite une communauté qui se crée à l'étage. On tutoie les enfants, on garde. C'est une solidarité permanente. Il n'y a qu'en France où je connais des gens très haut placés. D'ailleurs, quelquefois, ils me disent, ça fait 17 ans que j'habite en face sur le palier, dans des quartiers assez huppés. Je ne connais pas le nom de mon voisin. On se salue cordialement dans l'escalier. Je ne connais même pas son nom, si ce n'est repérer la boîte aux lettres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je peux vous dire que ce sont dans les milieux défavorisés, dans des zones justement dites sensibles, où la communauté, la solidarité entre voisins est plus active que dans des zones huppées. Le bourgeois, finalement, il n'est pas très causant. À part un lien. Je connais aussi les quartiers bourgeois où il y a une amitié. Oui. Non. Par contre, c'est aussi des endroits où il y a de très fortes tensions.
Bah oui.
On a vu, il y a même des meurtres, il y a même des agressions. Oui. J'ai connu des gens qui ont déménagé.
C'est bien parce que tout de suite, les
on est dans la modération.
Non,
je
vous parle d'immeubles où il y a eu des meurtres, il y en a régulièrement, et les gens sont partis parce que c'était plus tenable.
Oui.
Donc il y a aussi des cas où les voisins... Il y a les voisins... Non.
Ça fait réfléchir, c'est un ordre dans l'immeuble.
Vous manquez pas. Il y a beaucoup de... Ça se voit que vous êtes tous dans des quartiers assez...
Oui, bien sûr.
On en a parlé tout à l'heure. Il y a des quartiers de France, il y a des banlieues où la situation est invivable pour tout le monde.
Non, mais banlieue ou pas banlieue. C'est vrai qu'il y a 20 ans, j'avais un voisin un peu chelou, mais genre deux étages en dessous, il me faisait trop peur à chaque fois que j'étais dans l'escalier. Et en vrai, j'étais contente de déménager. Il était flippant. Il était bizarre. Voilà. Ouais, il ne s'est jamais ramassé.
Il y a les obsédés du bruit.
C'était pas confort, quoi.
Il y a les obsédés du bruit. Je connais des cas, c'est extraordinaire, qui, parce que là-bas, la personne marchande, oui, vous mettez vos talons à aiguille la nuit pour m'empêcher de dormir, vous voyez.
Et le type d'en face qui vole
le journal, qui vous vole le journal, ou quand on avait le lait qui vole.
Mais
voilà.
Moi, j'ai déjà volé le journal.
Donc, mais avoir un bon voisin, avec lequel on s'entend, je peux vous dire, ça change la vie. Avoir une bonne relation avec un voisin, ça vous change la vie. Et ça peut aboutir au mariage. C'est pas fini. Ça peut aboutir au mariage. J'ai connu, parce que d'abord, ils couchaient ensemble, et ensuite, ils se sont mariés.
Ah, ben ça, c'est super.
On est passé du meurtre au mariage.
C'est pour vous dire qu'il y a tout dans le voisinage.
Oui, bien sûr qu'il y a tout, une fois que c'est dit. Bon, Mathilde Dimmer, est-ce que vous avez des groupes WhatsApp entre voisins?
Alors non, moi j'ai jamais eu ça, je communique par SMS avec mes voisins, mais j'ai pas de groupe WhatsApp ou même de groupe mail.
Très pratique.
Avec mes voisins, non. Par contre, on se donne des coups de main, parfois même avec certains on dîne ensemble, là on se pose la question avec certains d'aller faire les affouages ensemble, donc ça dépend vraiment avec qui. Moi, j'ai toujours eu des très bonnes relations, sauf le moment où j'ai vécu à Paris, où je trouve que je suis plutôt une bricolo du dimanche et que ça plaisait pas à l'un d'entre eux.
Ah là là.
Voilà. Et du coup, à la campagne, ce genre de problème d'être bricolo le dimanche ne pose beaucoup moins de soucis.
Jérôme Lavrieux, c'est quoi le bon rapport avec son voisin? C'est distant, copain, ni trop distant?
C'est tout sauf envahissant. Si vous avez un voisin qui est envahissant, c'est plus un voisin, c'est un emmerdeur. Et vous devez essayer de ne pas être envahissant non plus. Moi, je suis à la campagne. Là où j'habite, le concept de boucle WhatsApp, c'est quelque chose d'un peu ésotérique. On a un truc révolutionnaire, c'est quand on se voit, on se dit bonjour et on se parle. Ah, et quand on se croise...
Vous parlez de quoi? De la météo?
De tout, de rien. Est-ce que si vous avez besoin d'une échelle, j'en ai une. Ah ben moi, si tu as besoin d'une bétonnière, j'en ai une, etc. Et tout va bien.
Un voisin, si vous avez besoin d'une bétonnière, j'en ai une.
Bah oui. C'est moins courant dans les immeubles à Paris.
On a toujours besoin d'un voisin qui a une bétonnière.
Moi, je suis au sixième.
S'il en a une de bétonnière, c'est plutôt inquiétant.
Je ne vois plus mes enfants le week-end. Ils sont chez la voisine qui est adorable. Et donc, on les perd le samedi matin.
Faites gaffe quand même.
Qu'est-ce que vous dites? C'est formidable, mais ça célèbre.
Tu devrais te poser des questions.
Alors, bizarrement, on a énormément de gens qui nous appellent sur ce sujet, qui veulent témoigner de leur voisinage parfois compliqué. C'est ce qui arrive à Sandrine, qui nous appelle de Paris. Bonjour Sandrine.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Alors, vous, ça ne se passe pas hyper bien avec vos voisins, hein, Sandrine?
Alors, en fait, oui, c'est un petit peu particulier. Je suis dans une situation un peu compliquée. Il y a une voisine qui a emménagé il y a peu de temps au-dessus de chez moi. Alors, voisine que je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer. Je sais juste via ma concierge qu'elle doit avoir le même âge que moi, grosso modo. Et en fait, elle est extrêmement bruyante avec son conjoint. J'ai l'impression en fait d'être limite dans la chambre avec eux. En fait,
C'est une autre forme de sexualité.
Vous pouvez imaginer. Et donc, en fait, j'ose pas aller aborder ce sujet un peu délicat avec elle.
Elle est au courant, là, je peux vous dire. Ça y est, elle a compris.
Mais ça veut dire, en fait, Sandrine, que vous n'êtes même pas allée frapper à leur porte en leur disant « bah, c'est un peu délicat ».
Non, je n'ai pas encore. Alors, pour le coup, là, encore hier soir, là, justement, je pense que... Est-ce que c'est peut-être le résultat du match qui les a...
Ils ont fait la troisième mi-temps.
C'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est assez régulier. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment délicat. Je ne sais pas comment aborder le sujet, en fait.
Un mot anonyme dans la boîte aux lettres.
En faisant plus de bruit qu'elle.
Un peu lâche, non, je ne sais pas.
Bon, c'est pas grave, l'acheter.
Ouais, mais je...
En fait, séduisez le monsieur.
Comment?
Séduisez le monsieur.
Oui. Bon, je suis déjà accompagnée, j'ai pas besoin de ça, merci. Mais
alors faites plus de bruit.
Mais voilà.
Non,
en tout cas,
un mot dans la boîte aux lettres.
Je me dis, c'est délicat. Je pense que la prochaine fois, je vais complètement décider de monter carrément, parce que c'est vraiment c'est des cris des deux côtés en fait.
Ah oui,
comme elle, comme lui, quoi. Ah non, mais c'est vraiment...
Peut-être qu'il l'a bat.
En tout cas, ils ont une vie sexuelle épanouie. Alors, on va demander à Maître Christophe Sanson, qui est notre invité sur ce débat, de vous donner peut-être des conseils. Il est avocat au barreau des Hauts-de-Seine et spécialiste dans la lutte contre le bruit, justement. Bonjour, Maître.
Bonjour, Estelle. Bonjour, Sandrine. Bonjour à vos chroniqueurs.
Voilà, alors avant de faire, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous répondiez à Sandrine, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire, Sandrine? Ses voisins font l'amour à toute heure du jour et de la nuit, et ça la dérange, et on peut la comprendre, parce que manifestement, son immeuble est mal insonorisé. Elle fait quoi?
Alors, c'est pas un cas rare, hein. La question m'a déjà été posée, et moi, ça m'arrive, étant donné ma spécialité, puisque je ne plaide que les dossiers en matière de nuisance sonore, cette question-là est régulièrement évoquée devant les conciliateurs de justice, voire en justice, puisque a priori, ça peut rentrer dans un trouble anormal de voisinage.
Mais qu'est-ce qu'on fait, maître ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce que j'ai entendu va dans le bon sens. Il faut effectivement d'abord essayer d'aller dialoguer et dire les choses franchement. Alors, évidemment, je n'ai pas notion, là, je n'ai pas entendu le nombre d'heures, le nombre de minutes. C'est vrai que quand
On va demander à Sandrine. Sandrine, ça dure combien de temps ?
Alors, franchement, ils ne sont pas sur une grande. Ils ne sont pas très longs, on va dire ça comme ça.
Il est précoce, on
connaît tout le genre.
Mais en tout cas, la fréquence est très régulière, ça c'est certain.
J'espère qu'ils ne vont pas se reconnaître.
Mais on est sur du moins de 10 minutes.
Oui, mais combien de fois par jour ?
Ça peut être plusieurs fois par jour, après-midi, soir, matin. Ils sont
et la nuit aussi ?
Ah, ils télétravaillent.
Oui, ils font pas mal de télétravail, je pense.
C'est un drame, ça.
La nuit, non, bizarrement. Alors après, moi, je dors avec des boules caisses. Donc, pour le coup, la nuit, j'ai pas entendu, je pense pas. Mais c'est vraiment toute heure de la journée, ça c'est sûr.
Mais maître Christophe Sanson, alors voilà, on voit que quand même Sandrine, ça la perturbe, donc elle doit aller voir donc ses voisins. Bon, c'est quand même très délicat, excusez-moi.
Ils font parler, et puis derrière, si vraiment on sent qu'il y a une mauvaise foi, le refus de reconnaître que vous êtes gêné finalement par cette nuisance, après, il y a la possibilité de saisir un conciliateur.
Ah oui, quand même.
Voilà. Le conciliateur, c'est la première marche de l'édifice judiciaire. On n'ira pas forcément au procès pour ce type d'affaire.
D'accord. Bah écoutez, Sandrine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir monter. Et j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous. On a également Aurélien qui nous appelle de Cramoisy dans l'Oise. Bonjour, Aurélien.
Bonjour, Estelle.
Aurélien, vous êtes chauffeur-livreur et vous non plus, ça ne se passe pas très bien avec vos voisins, dites donc.
Alors ça ne se passait pas très bien parce que maintenant aujourd'hui, alors bonjour à toute l'équipe déjà dans un premier temps.
Salut,
bonjour.
Et alors effectivement, avec mon ancienne voisine, ça ne se passait pas très bien du tout, qui nous a, elle, malheureusement commis plusieurs actes d'incivilité. Alors si on peut rentrer dans les détails, ne soyez pas choqués. Nous avons eu nos véhicules qui ont été dégradés, des coups de clé. Nous avons eu des crottes de chien projetées sur nos portes de maison, sur nos véhicules. Et pas mal d'incivilités, des injures, tout ce genre de problématiques, quoi.
Mais excusez-moi, Aurélien, votre voisine n'a pas fait ça comme ça pour le plaisir, il a dû se passer quelque chose.
Eh bien, malheureusement, non. Comme dans tout voisinage, moi, avec ma conjointe, nous avons 31 ans tous les deux. Nous avions acheté une petite maison dans un petit village qui s'appelle Cramoisy, justement, qui est un super beau petit village. J'en profite pour faire de la pub de chez moi.
Oui, c'est fait.
Mais donc tout se passe bien, forcément quand on arrive au début, tout est cordial, on dit bonjour, au revoir, sans rentrer dans l'amitié. Et au fur et à mesure du temps, les relations se sont dégradées de par le comportement de cette voisine qui se permettait de passer l'aspirateur à 22h, de toquer chez vous complètement éméché, plein d'actes d'incivilité. Donc forcément, ma conjointe et moi, on lui a fait les remontrances.
Normal.
D'autres voisins lui ont fait des remontrances aussi, chose qu'elle n'a pas acceptée. Et après, derrière, elle s'est transformée, on va dire,
en
mégère, exactement.
Et aujourd'hui, ça va ?
Bah aujourd'hui ça va parce qu'elle a quitté son logement malheureusement.
Ah oui.
Pour nous, heureusement, mais malheureusement pour elle, elle a quitté son logement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout ça s'est arrangé. Mais on a quand même dû arriver à des conciliations devant la gendarmerie.
Ouais,
le maire qui avait pris le dossier en main, qui était complètement désabusé, ne savait plus gérer cette personne. Parce que cette personne-là était policière municipale et se permettait de... Certaines personnes quoi, qui ne travaillaient pas dans les fonctions publiques.
Ah oui, la policière qui balance des crottes de chien sur la voiture, ça c'est quand même...
C'est
assez rare. Merci Aurélien d'avoir été avec nous. Maître Christophe Sanson, concrètement, est-ce qu'il faut fixer des limites dès le départ avec ses voisins? Comme ça, on est tranquille, quoi.
Oui, première observation, on est bien dans les 6% là de voisins en conflit, mais 6% à l'échelle nationale, ça fait beaucoup de monde. Et donc, fixer les limites, ça me paraît bien par le dialogue. On voit dans l'exemple qui nous a été donné là que un contentieux de voisinage, qui est plutôt un contentieux civil entre propriétaires, peut dégénérer en contentieux pénal. Et évidemment, dans ce cas-là, moi, je conseille quand même d'aller porter plainte ou de faire une main courante pour pouvoir au moins tracer et commencer à avoir des preuves pour la suite.
Est-ce qu'il faut aller se présenter dès qu'on arrive à un endroit, faire un peu, vous savez, un peu comme dans Desperate Housewives, vous amenez des muffins, vous essayez d'être un peu sympa quand vous arrivez.
Des amis qui le font systématiquement. J'en connais un qui appelait le maire, qui demandait à rencontrer le maire quand il arrivait, pour que le maire lui présente tous les voisins du quartier et la fête des voisins. Vous l'avez fait, la fête des voisins?
Oh, moi, j'adore mes voisins.
Oh, merguez, merguez, chipolata et tout sur un barbecue l'été.
Un barbecue en immeuble.
Avec le rosé en cubi, ah non, c'est sympa, non, ça crée la convivialité.
Ouais.
À condition que les gens se prêtent à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais vous êtes farouche ici, un petit peu.
Ça veut dire quoi, ici?
Vous avez l'air d'être... Le voisin, c'est un partenaire de vie permanente.
Moi, je suis amie avec mes voisins, je n'ai aucun problème au moment où j'étais comme ça. Mais enfin, en immeuble, c'est plus compliqué d'aller mettre un barbecue dans le couloir. Excusez-moi, Perico. Enfin, je veux dire, voilà.
Il y a un petit jardin, peut-être, en bas, non, un jardin.
Non, nous n'avons pas de jardin. Non, excusez-moi, mais peut-être un jour. Donc, maître, en fait, est-ce que chacun doit y mettre du sien? C'est-à-dire que quand on arrive dans un nouveau logement, par exemple, est-ce qu'il faut aller se présenter à tous ses voisins, tout ça, et faire bonne figure?
C'est l'idéal, mais il y a quand même des cas incontournables où le litige est quasiment programmé. C'est quand des travaux sont faits. Là, je ne parle pas simplement des travaux de bricolage qui sont habituels et tolérés et qui doivent être faits dans les heures prévues par les arrêtés municipaux, mais c'est quand par des travaux, on dégrade l'isolement entre deux appartements, par exemple.
Ah oui, oulala.
Et donc là, on part au procès la plupart du temps parce que, évidemment, le voisinage et la tolérance ne doivent pas quand même vous conduire à accepter n'importe quoi de la part du voisin.
Vous avez plein de messages, Rémi.
Nombreux messages de Julie, par exemple, qui nous dit « Personnellement, j'ai un voisin voyeur avec mon mari. Nous avons été obligés d'ériger un mur de 2 mètres de haut pour vivre en paix. » Ouais, bah, des mésaventures comme ça, comme celle de David aussi, qui lui vit, tu sais, il y a un droit de passage.
Ah oui, oh là là, là.
Voilà.
Ah,
ça, et donc le voisin laisse son chien continuellement dans la cour qui longe le passage. À chaque fois qu'on rentre la voiture, qu'on veut décharger la voiture, c'est une galère parce que le chien nous fait très peur. On lui a déjà dit, il n'en a rien à faire. Voilà, on est passé même devant un notaire qui nous dit qu'il ne peut pas rien faire.
Mais c'est un juge qu'il faut.
Bah ouais, mais, il demande des conseils à un notaire. Et il y a Anna qui nous dit bon. Heureusement, parfois, ça se passe très bien.
Mais oui.
Bonjour, personnellement, je m'entends très bien avec mes voisins. Je suis aide-soignante, je travaille à temps plein. Mon mari est militaire, donc souvent absent. On a 2 enfants de 10 et 6 ans. Avec mes 2 voisines, on se relaie très souvent pour l'école le matin ou bien le soir. Mais la plupart du temps, c'est moi qui ai besoin d'elles. Et ça se passe très bien.
Et c'est vrai que le voyeurisme dans les grandes villes, il faut faire...
Non, mais vous voyez tout à l'heure, j'ai connu un couple qui s'est marié. Il avait un problème de fuite. Et ça s'est débouché. Il avait une fuite qui passait sous la voisine. Et puis donc,
chez la voisine.
Chez la voisine. Oui. L'eau descendait. Donc, elle est montée plusieurs fois. Oui. Et puis bon, il a tout de suite. D'ailleurs, c'est elle qui a appelé un plombier pour arranger. Lui était un petit peu intellectuel. Et ça s'est fini en histoire d'amour. C'est une histoire magnifique.
Ah, oui,
pour une histoire de fuite. La fuite mène à tout.
Non,
mais pour ça, moi, avec le voisinage, je crois à tout. Je crois à tout. Ah, je peux vous raconter des choses abominables.
Parce que moi, j'ai inondé mon voisin avec un tuyau d'arrosage une fois. Et bah non, ça s'est pas terminé comme ça, mais. Non, mais j'ai dû payer. Voilà, c'est comme ça. Enfin, j'étais en faute.
Ah, les fuites, ça, c'est les voyageurs.
Ah oui, que vous voulez.
Ça peut vous mener au voyage au long cours.
Vous oubliez un tuyau d'arrosage, évidemment, c'est embêtant. Charles nous appelle de Chilly-Mazarin, dans l'Essonne. Bonjour, Charles.
Bonjour à tous, bonjour l'équipe.
Et je suis très contente de vous avoir, Charles, parce que pour vous, tout se passe bien avec vos voisins.
Écoutez, ça se passe tellement bien que c'est un de mes voisins qui vous a appelé pour que je puisse témoigner. Ah, je ne sais pas l'émission, désolé, mais écoutez, je trouve ça sympa parce que
quel homme de goût.
Tout se passe
un bon voisin.
Très
bien fait, bonne idée.
Voilà. Et alors pourquoi ça se passe bien? Parce qu'en 2020, mars 2020, début du confinement, j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp solidaire qui se voulait relayer les messages, les besoins des uns et des autres, mais surtout créer un peu de fun dans la résidence. C'est-à-dire on avait des DJ qui mettaient des enceintes à l'extérieur à 17h30 et ça tournait dans la résidence tous les jours. Il y avait un DJ qui mettait de la musique et des rendez-vous tous les soirs à 20h, des rendez-vous à thème. Donc évidemment, tout ce qui était applaudissements pour les aides-soignants et autres, mais aussi des concerts, des personnes qui voulaient jouer un instrument de musique, des soirées à thème, j'ai envie de dire, qui duraient un quart d'heure. On organisait des apéros visio également, on a fait des dessins pour les personnels des EHPAD et autres. Il y a eu pas mal de choses, des dons de vêtements, et j'ai décidé de garder ce groupe WhatsApp après le confinement, puisque c'est un groupe solidaire.
Et ça marche toujours?
Eh ben, ça marche très bien. On est 225 dans ce groupe. Je suis le seul administrateur. Voilà. Alors, il n'y a que moi qui peux envoyer les messages. On m'adresse les messages et moi, je les transfère. Des messages
bien.
De tout genre. Je vends un meuble ou je recherche telle ou telle chose. Ou une personne qui a perdu quelque chose, elle m'envoie la photo.
Ça,
on va dire, ah, bah, tiens, j'ai perdu ça. Enfin, quelqu'un me dit, j'ai trouvé cela dans la résidence. Est-ce que tu peux publier plein de choses. Des dons également, des collectes, comme pour l'Ukraine, par exemple. Donc, j'essaye d'être le relais de tout ce qui se passe super bien dans cette résidence.
Ah mais ça c'est vraiment chouette. Charles, bah, bravo à vous pour ces initiatives, ça c'est génial.
J'ai connu des personnes âgées d'un même immeuble, ils se sont débrouillés pour se retrouver dans le même EHPAD, tellement le voisinage.
Oui. Ah oui,
ils sont tous en...
c'est vrai. Ah bon ?
Ouais, quand j'étais DIRCAB à Meaux, il y avait une politique de démolition d'immeubles dans des quartiers très difficiles. Et ben, la principale angoisse des gens qui habitaient dans un immeuble délabré, dans un quartier difficile, c'est de pouvoir être relogés ensemble dans un autre immeuble.
Voilà. Oh, c'est génial.
Parce que, en fait, malgré toutes les difficultés de la terre, c'est des gens qui vraiment en ont bavé une grande partie de leur vie. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rester, mais leur angoisse, c'est de se retrouver quelque part où ils ne connaîtraient plus personne. Et donc, il fallait faire de la dentelle pour le relogement, notamment chez les personnes âgées.
Mais oui.
Parce que sinon, c'était les précipiter vers quelque chose qu'on ne voulait pas. Et donc, pour les maintenir en forme, on faisait de la relocalisation dans des immeubles nouveaux, reconstruits, vraiment en faisant de la haute couture pour dire un tel doit être à côté d'un tel,
en
etc.
En gardant le voisinage.
Parce que sinon, on foutait en l'air toute une vie de quartier. Je pense que ça, c'était très enrichissant de faire ça.
Mathilde, est-ce que vous avez changé vos comportements aussi pendant le premier confinement, en fait, pendant la pandémie ? On sait qu'il y a eu beaucoup d'entraide entre voisins à ce moment-là.
Oui, on a eu des moments d'entraide pour faire les courses, notamment, je pense, pour une personne âgée qui était en difficulté. Mais moi, ça s'est complètement arrêté après le Covid.
Ah, carrément ?
Ah, ouais.
Déjà, moi, j'ai déménagé.
Terrible, ça, un naturel qui revient au galop. Ça, naturel,
mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mes amis qui avaient ce genre de mécanisme pendant le Covid où ça s'est arrêté. Les fêtes, ce que décrivait tout à l'heure Charles, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout continuer. Et on le comprend,
non, on va arrêter les apéros Zoom avec les voisins maintenant. Vous voyez, ça marcherait plus.
En toute logique. Mais du coup, je trouve ça chouette que parfois, ça perdure et que ça ne parte pas à volo, comme ça a pu être le cas aussi sur d'autres groupes WhatsApp de ce que tu disais tout à l'heure.
Maître Christophe Sanson, est-ce que les relations elles sont plus difficiles avec ses voisins quand on habite en ville ou quand on habite à la campagne ?
Oui, je dirais que c'est à peu près égal, mais ce ne sont pas les mêmes nuisances. On n'a pas les mêmes conflits, effectivement. Et c'est plutôt à la campagne, c'est le coq, c'est le chien.
La poubelle.
Les cloches.
On a les cloches également.
Là, ça, c'est pas pour le voisinage.
Je dirais que si on est en matière de bruit, en fait, on a souvent des conflits de voisinage assez aigus aussi à la campagne. Et puis en ville, il faut distinguer la situation des appartements où on va avoir effectivement une situation un peu... Les bruits ne seront pas les mêmes. Qu'en pavillon, où là, on va être plus suspicieux sur les aspects bruit de bricolage, de jardinage, alors qu'en appartement, ça va être les bruits de choc, les enfants.
Tronçonneuse.
Enfin, les enfants à la campagne, ça peut être embêtant aussi.
Ah, oui,
vous avez
le
cas de gens qui ont des piscines, où effectivement, les voisins, ils n'en peuvent plus, parce que c'est un enfer, quoi. Donc voilà, chaque endroit a ses problèmes. Vous vous souvenez du témoignage de Sandrine au tout début de l'émission ? Qui avait des voisins très bruyants quand ils faisaient l'amour.
Oui.
Et c'est arrivé aussi à Marie, qui nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors, il vous est arrivé la même mésaventure que Sandrine. Est-ce que vous l'avez réglée, cette mésaventure ?
Moi, j'habitais à l'époque à Paris, donc effectivement, en déménageant, ça s'est réglé. Mais en fait, j'avais des voisins qui étaient super bruyants. Ça arrivait à n'importe quel moment de la journée. Il y avait les cris, il y avait aussi les coups dans les murs à chaque coup de rein, on va dire.
Ah oui, quand même, le lit était trop près. Oui.
Et j'essaie de... Bon, on a essayé d'aborder le sujet parce que c'était vraiment gênant. Vous vous rendez compte, vous recevez vos parents. Je vous laisse expliquer. Vous êtes en train de couper votre viande et puis il y a des coups dans le mur. Vous sursautez à chaque cri.
Oh, c'est terrible.
Je dis que le voisin fait des travaux. Je ne peux pas dire ça à vos parents. Je leur dis que c'est très bricoleur, très bricoleur.
Et expliquer aux enfants aussi, c'était très compliqué. Voilà, donc j'en ai parlé à la voisine qui l'a très mal pris.
Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Je sais pas. En tout cas, voilà.
Elle a dû vous dire que vous n'étiez pas capable de ça et qu'elle, c'est son bonheur. Voilà, classique.
Elle a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et elle en a parlé à son mari qui m'a vu à souris, et puis ensuite ils ont augmenté le volume, quoi.
Ah, ils ont augmenté le volume ?
C'était pire.
Et donc, vous avez déménagé à cause de ça ?
Parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le bruit de leur propre enfant. Étant donné que si on entend les voix, on entend aussi les pas, on entend tout le reste. Donc, tout ça accumulé. Et puis, ça tournait c'est du voyeurisme. Ça, c'est, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est...
La provocation.
Oh, puis la gêne quand tu rencontres la personne dans l'ascenseur. Bonjour, vous allez bien ? Oui, manifestement. Hein, oui.
Non, moi, j'habitais au rez-de-chaussée à l'époque. S'ils m'entendent, ils vont se reconnaître, ils habitent au premier. mais ils avaient un jeune enfant, ils s'amusaient bien, mais ils en faisaient profiter tout le monde, quoi.
Ouais, ils ont vraiment pourri votre vie, quoi.
Ah oui, oui, c'est des... Bah, tout le monde était gêné, je pense, dans l'immeuble, mais voilà, vu comment ça s'est passé avec nous, ils n'ont pas forcément... ils n'ont pas forcément mis de l'huile sur le feu ou... sur la braise.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, merci Marie, en tout cas, pour ce témoignage. Maître Christophe Sanson, finalement, c'est ça, quand on a un problème avec ses voisins, le mieux, c'est de déménager ?
Ah non, non, non. Il ne faut pas se résoudre à ça. Mais en revanche, c'est un bon indice pour savoir si la souffrance est là. Parce qu'on ne doit pas déménager. Il y a des moyens de sortir du conflit. Il y a des moyens, dans les cas extrêmes,
bah là, c'est
d'aller
compliqué.
Plaider des affaires comme ça. Mais là, il y a quand même un point intéressant à souligner, c'est que le degré d'isolement des logements n'est pas bon. Oui. On doit pouvoir quand même vivre dans des conditions en toute indépendance, sans cette promiscuité qui est détestable, parce que les gens doivent pouvoir vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parc des logements français est quand même assez mal isolé. Les normes
d'isolement
actuelles, les meilleures, remontent à simplement 1999. Hein, c'est la nouvelle réglementation acoustique. Avant, c'est beaucoup moins isolé. Et ça rend la cohabitation évidemment difficile. C'est ce que j'ai vécu moi comme avocat pendant le confinement, où les gens, j'ai eu plus de dossiers finalement pendant le confinement qu'avant ou après.
Bah oui, mais parce qu'en plus il y avait les enfants, quoi. Et les enfants font beaucoup de bruit. Alors qu'en plus ils peuvent pas sortir. Ça c'est sûr, quand on a des voisins.
Le radio réveil.
Avec des gamins en bas âge. Non mais enfin, c'est là, vous vriez, quoi.
Ça concerne tous les âges. Hein.
Bien sûr.
Moi j'avais quand j'étais conseiller général un béguinage. C'est une résidence.
Quoi?
Béguinage. Dans le Nord. C'est des personnes âgées. Ils sont dans une résidence, mais chacun son logement.
D'accord.
Et il y avait un conflit de voisinage entre deux voisines. Et il y en a une qui prenait une cassette vidéo de ce que vous imaginez et qui le mettait à fond les ballons pour embêter la voisine. Donc on a dû résoudre le conflit de voisinage, mais pas qu'un seul, parce que ça redonnait des idées à plein de gens dans la résidence. Et c'était devenu un enfer.
Et contamination.
Extraire cette dame, parce que pour que la résidence retrouve son calme. Mais c'était de la provocation pure.
Ah oui, donc c'est à tous les âges, quoi.
Ah
même
oui,
les,
oui,
même
oui,
les personnes. Je pensais que les personnes âgées, on était plutôt tranquilles. Donc...
Oula, pas du tout.
Y a pas que.
Pas du tout.
Bah quoi, Perico, pourquoi pas du tout?
Pas du tout. Les personnes âgées peuvent être très vindicatives et très agressives sur un voisin très. Mmh. Elles prétextent qu'elles sont justement, ou alors des vieux entre eux. Ça peut être terrible. Terrible, terrible.
Perico a toujours des exemples incroyables. Non, mais...
Le radio réveille que les gens qui partent en week-end oublient chez eux. Ça, ouais. Des cas.
Ah, oh là là.
Et à 6h du matin, puis alors ici, c'est sympa parce qu'évidemment, ils ont oublié.
Le téléphone vibreur dans un hôtel qui te fait trembler tous les étages. C'est insupportable.
Mais, c'est parce que ça, encore une fois, il y a aussi l'épaisseur des murs à revoir. C'est inadmissible. Ça, quand vous avez été à la campagne dans une maison, vous avez pas
l'enfant qui fait des cours de trompette, le piano.
L'enfant qui fait passer nuit. L'enfer.
Non, mais celui qui joue le jeune.
On est tous traumatisés.
Ah bah oui. Non, mais l'enfant qui fait ses nuits à 3 ans, ça c'est un truc.
Oui, mais c'est provisoire. Ça va s'arrêter.
On ne sait pas.
Alors celui qui fait la trompette.
Ça vous paraît tellement.
Tous les dimanches matin.
Mais il ne peut pas faire ses nuits et après se mettre à la trompette.
Ah oui.
C'est sans fin. Rémi, on va terminer avec des messages.
Oui, ce message notamment de Steven, qui lui a découvert pendant le confinement, il ne s'en était pas rendu compte avant parce qu'il n'était pas chez lui la journée, que son appartement était vraiment trop bruyant. Je n'étais pas souvent à la maison, j'entendais tous les bruits pendant le confinement, une horreur. Aujourd'hui, en plus, j'ai perdu mon travail et je n'en peux plus, nous dit Steven. Bah oui, mais c'est vrai que parfois...
C'est ça.
Quand on emménage dans un appartement, c'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se rend compte des nuisances sonores. Et c'est vrai que tu parlais des rénovations thermiques, ça en fait partie aussi.
L'isolement acoustique. Oui, le choix de l'isolant qu'on utilise aujourd'hui, la question phonique, elle est hyper importante et prise en compte, beaucoup plus qu'avant.
Merci à Maître Christophe Sanson d'avoir été avec nous sur ce débat. Et puis bien sûr, on attend le résultat de la consultation qu'on a faite sur Twitter, alors, Rémi.
C'est nécessaire d'avoir de bonnes relations avec les voisins pour 70% des personnes qui ont répondu sur les réseaux sociaux.
Voilà. Et 30% inutiles, c'est les 30% qui ont de très mauvaises relations avec leurs voisins. Dans un instant, Amélie Rosier, qui RMC s'engage pour vous. Et Amélie qui va tenter d'aider des parents d'enfants handicapés qui ne peuvent plus aller à l'école. C'est un véritable scandale. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h30 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, c'est un gros dossier. Amélie, vous avez répondu à l'appel à l'aide de parents d'enfants handicapés.
Oui, l'école est un droit pour tous en France. Vous le savez, c'est même une obligation. Et pourtant, Anne est maman d'une fillette autiste de 8 ans qui aurait dû faire sa rentrée en CP cette année. Pour suivre les cours, la petite a besoin d'un AESH, un accompagnant, vous savez, des élèves en situation de handicap qu'on appelait des AVS avant, accompagnants de vie scolaire. Eh bien, il n'y en a pas suffisamment. Résultat, la fille d'Anne ne va pas à l'école.
Ça me met en difficulté. Moi, je n'ai pas décidé de faire l'école à la maison à mon enfant. Ce n'est pas un projet de vie que j'ai.
Anne est carrément prête à payer une accompagnante privée pour permettre à sa fille d'aller à l'école. Elle a trouvé la bonne personne et la bonne association qui peut signer une convention d'accueil avec l'éducation nationale. C'est comme ça que ça s'appelle. Sauf que depuis septembre, sa demande est bloquée au rectorat du Val-de-Marne. Écoutez.
Je mets en place tout ce qui peut faciliter l'intégration ou l'inclusion de mon enfant au sein de l'école. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse me signer le papier. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien du tout. Je demande seulement qu'on me signe mon papier.
Non, mais cette histoire, elle est hallucinante, Amélie. C'est-à-dire que Anne, en fait, elle a les moyens de trouver une accompagnante pour son enfant qui pourrait donc aller à l'école et pourtant, elle n'a pas le droit. Mais pourquoi ?
Alors, honnêtement, oui, ça paraît complètement fou.
Oui, hein.
Effectivement, sachant qu'en plus, accompagnant d'élèves handicapés, donc AESH, c'est un métier à mi-temps qui attire peu, qui est rémunéré moins de 900 euros par mois, qui est très compliqué, pour lesquels les gens ne sont pas formés. Résultat, dans le Val-de-Marne, il manquerait 1300 AESH selon le collectif des parents du 94. Et de toute façon, la pénurie d'accompagnants, c'est une pénurie qui est nationale. Stéphanie Valentini, elle est présidente de l'association Cap Handicap. Elle-même, elle est maman d'enfants autistes qui sont aujourd'hui grands. Et donc, elle a monté cette association pour aider les parents comme Anne à trouver des solutions et donc des accompagnants privés, évidemment, quand ils en ont les moyens, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et elle non plus, elle ne comprend pas pourquoi le rectorat ne répond pas à sa demande depuis bientôt 3 mois.
Vu la pénurie d'AESH Éducation nationale, c'est une chance que nous, on arrive à trouver des personnes qui veulent bien travailler avec nos enfants. Il nous arrive de demander l'embauche aussi à l'Éducation nationale de ces personnes, parce qu'il y a aussi des parents qui, financièrement, n'ont pas les moyens de payer du privé. On leur amène de l'humain. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ils font barrière.
Au total, une vingtaine de familles sont actuellement en attente de scolarisation de leurs enfants dans le Val-de-Marne avec un accompagnant privé. Mais tant que l'association n'a pas de réponse de la part du rectorat, elle ne peut rien faire parce qu'en fait, globalement, elle refuse de les faire adhérer à l'association et donc de payer pour établir cette convention si elle-même n'arrive pas à la faire valider auprès du rectorat.
Mais ça paraît complètement fou, ce dossier. Alors évidemment, je connais votre talent, Amélie, je sais que vous avez appelé le rectorat, mais ils vous disent quoi ?
Alors, dans un premier temps, le rectorat nous a simplement répondu qu'il n'y avait pas de souci, que non, il ne bloquait pas spécifiquement cette association plutôt qu'une autre. On a évidemment insisté, vous vous en doutez, nous, en fait, tout simplement, on ne comprend pas ce qui bloque. Et surtout, on était tout à fait prêts à entendre une réponse. On a donc beaucoup insisté. On a fini par obtenir quand même une réponse. Et c'est ce qu'attendait l'association depuis septembre, parce qu'en fait, l'association n'avait pas de retour. C'est-à-dire pas de retour de mail, rien.
D'accord.
C'est silence radio, quoi, ni de son ni d'image. Et donc la direction académique a fini par nous dire qu'effectivement, il y a bien eu un problème dans ce dossier, même plus spécifiquement une série de problèmes, sans détailler de quoi il s'agissait. Mais tout de même, la direction académique s'est excusée, elle a présenté ses excuses auprès de nous, mais sans nous dire précisément ce qui s'est passé et où était le problème. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire, j'ai insisté, mais bon, c'est tout ce qu'on a obtenu pour l'instant. La bonne nouvelle, qui est une demi-bonne nouvelle selon nous, c'est que la direction de l'académie s'est engagée auprès de nous à revenir vers l'association avant fin décembre. Donc ça veut dire qu'elle a un mois pour le faire. Et donc ce qu'on imagine, c'est que peut-être ces enfants pourraient retrouver le chemin de l'école à la
rentrée. 4 mois après la rentrée. Donc,
après les vacances de Noël et après le premier trimestre. En tout cas, pour le moment, l'association n'a pas encore de retour et donc on espère que le rectorat va revenir vers la famille. On n'arrive pas à comprendre. On a démêlé le dossier en ce sens qu'on a obtenu une réponse du rectorat qui s'est engagé auprès de nous. En revanche, on ne l'a pas vraiment démêlé en ce sens qu'on n'a pas bien compris où était le problème, où était la problématique.
Et c'est les enfants qui ont perdu un an, parce qu'on se doute bien, enfin, c'est les enfants qui ont déjà du retard.
Exactement.
Et en fait, ils ont déjà perdu 4 mois, et on se doute bien que là, voilà, ces 4 mois, ils sont fichus, l'année, elle est fichue, donc ils vont encore prendre plus de retard. Mais
et puis, c'est des enfants
quoi.
Qui ont besoin d'un accompagnement. Mais là, en l'occurrence, par exemple, la petite fille, donc elle a 8 ans, elle rentre en CP, donc effectivement, vous avez raison, elle a déjà du retard, mais sa mère tient à ce qu'elle puisse continuer sa scolarité.
Bien sûr.
Alors, elle fait quand même appel à cette accompagnante privée qu'elle a trouvée, mais au lieu d'aller à l'école, elle le fait chez elle. Mais du coup, eh ben, la petite, elle ne voit pas de camarades. Voilà. En termes de sociabilisation, là-dessus aussi, elle prend du retard, en fait. Et ça va vite, et particulièrement pour des enfants qui ont des spécificités, comme cette petite qui est atteinte d'autisme.
Eh ben, on espère en tout cas que tout va se régler pour Anne, pour sa fille, et puis pour tous les parents qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y en a énormément aujourd'hui en France qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants par manque d'accompagnants. Merci beaucoup. Amélie Rosic, on parle de quoi demain ?
Alors demain, on a une petite histoire totalement folle d'un auditeur qui nous a contacté parce que son assurance automobile refuse de l'indemniser. Mais oui, sa voiture a été emboutie par des braqueurs qui voulaient une bijouterie, et c'est vrai, il n'a pas pu faire de constat.
Ben non,
c'est ballot.
Et voilà.
Ah là là.
Et voilà. Non, c'est ma hâte là.
C'est extraordinaire.
Ce n'est pas une blague.
Ah, mais j'ai hâte d'être à, non, j'ai hâte d'être à demain, mais c'est extraordinaire. Aussi. Merci beaucoup, Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous. Et si vous aussi, vous voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes, surtout, vous n'hésitez pas. RMC pour vous, @rmc.fr. Il y en a pour tous les goûts. Hein, c'est très éclectique. Gère tous les soucis sont nos soucis. N'hésitez pas et écrivez-leur. Merci, Amélie. On vous retrouve demain, 14h30. Dans Estelle Midi, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story avec Rémi Barré, avec Perico Légas, Mathilde Himmer et Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, voici les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Absolument pas. Les immanquables.
RMC Estelle Midi.
Les immanquables.
Et nous allons commencer, Rémi, avec la date du jour.
Oui, au cas où ça vous aurait échappé, le retour à l'école après les vacances de fête de fin d'année, ce sera le 3 janvier. Et le 3 janvier, c'est un... Mardi. Face aux interrogations de nombreux parents, le ministère de l'Éducation nationale a apporté des précisions. Si la rentrée se fait en décalé, ce serait pour des raisons de sécurité routière. Le réveillon du nouvel an tombe cette année un samedi soir. En cas de rentrée scolaire dès le lundi suivant, les départs sur les routes risquaient d'être très nombreux dès le dimanche, lendemain des festivités propices à certaines soirées arrosées.
C'est plutôt une bonne mesure, ça, Perico Légas.
Oui, sauf que ça s'est déjà produit. Non, mais je m'en réjouis, mais ça s'est déjà produit. Il n'y a pas eu plus de morts le lundi de janvier.
Parce que vous en savez, vous avez regardé les chiffres, peut-être. Vous avez les chiffres en tête.
C'est toujours comme ça.
Mais oui.
Quand le 1er janvier est un dimanche, c'est toujours reporté au mardi, la rentrée. Ce n'est pas la première
là,
fois.
Le 1er janvier,
pourquoi on vient de l'apprendre, alors ?
Dimanche.
Parce que la dernière fois, ça devait être il y a 6 ou 7 ans.
Il y a quand même de la marge.
C'était il y a 6 ou 7 ans et on a oublié.
Oui, c'est ça.
Mais c'est toujours comme ça.
Enfin, de toute façon, les gens ne vont pas... Excusez-moi, mais les locations, elles vont du dimanche au dimanche. Donc, de toute façon, les gens ne vont pas rentrer le lundi.
Non, parce que je vais vous dire un truc. Les gens qui veulent venir pour le week-end du Nouvel An, c'est ce que je vis, ils demandent justement si le dimanche, ils peuvent rester après 11h. Normalement, vous quittez vos logements à 11h. Ils demandent s'ils peuvent, parce qu'ils auront fait la fête toute la nuit.
D'accord.
Ouais, donc ils demandent à pouvoir partir vers 16h, 17h, 18h. Et donc, ils ne veulent pas prendre la route pour arriver dans la nuit tard et que les gamins recommencent le lundi matin. C'est pour ça qu'il y a ce jour en plus.
Il y a ceux qui sont en maison de campagne qui rentreront le lundi.
Voilà.
Vous trouvez ça bien, vous, Mathilde ?
Moi, je trouve ça très bien, oui.
Et l'émission reprend quand, Rémi ?
Ah bah nous, on n'arrête pas, non.
Non, mais je demandais.
J'avoue que si on pouvait l'étendre à tous les jobs, je prends.
On va en faire la demande. Mais...
Bon, en tout cas, les gamins, je peux vous dire, eux sont contents.
Bah oui, ça
ils trouvent ça formidable. Ouais. Pour une fois, ils adorent l'éducation nationale. Nous allons passer à la vague du jour.
48 331, c'est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés en 24 heures, d'après des chiffres publiés samedi par Santé publique France. Il s'agit d'une hausse de 2,6% sur une semaine. Dans son point épidémiologique publié la jeudi dernier, qui correspond à la semaine du 14 au 20 novembre. Santé publique France, qui dépend du ministère de la Santé, souligne une reprise de la circulation du Covid-19 sur le territoire national. Et puis précise aussi qu'au 21 novembre dernier, seuls 8,6% des 60-79 ans éligibles à un rappel adapté au variant Omicron en avaient reçu un.
Je trouve une petite mine d'ailleurs, Perico.
Non, c'est qu'il y a eu un coup de froid terrible et le virus est sensible au froid. Donc là, il se redéploie pour des raisons météorologiques. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Je dis que le phénomène physique...
Et c'est surtout qu'on reste à l'intérieur.
Voilà, il est celui-là. Voilà. Alors ensuite, c'est toujours l'Omicron. Donc bon, la létalité pour l'instant. Enfin, restons extrêmement prudents. Vous avez vu ce qui se passe en Chine. Donc, Oui, mais enfin, là, pour l'instant, c'est l'Omicron.
Vous avez tous les infectiologues là, qui se repressent à nouveau sur les plateaux et qui nous disent de faire attention. Enfin, moi, j'étais dans le train hier, je peux vous dire, j'ai fait train et métro hier, je n'ai pas vu un masque. Non. Et le pire de tout, je suis allée à, non, mais c'était énorme. Je suis allée à une avant-première d'un film diffusé. En fait, c'est un documentaire qui a été fait sur le Covid. Formidable documentaire. Donc, je suis dans une salle de cinéma avec plein de médecins, hein, que des personnels soignants. Et dans la salle, je suis la seule avec un masque. Alors, alors qu'on vient, on est en train de voir un truc avec des gens qui meurent sur le Covid, je suis la seule à avoir un masque. Et tout le monde me disait, t'as le Covid ?
Non, je veux pas l'avoir justement.
Et ça m'a sidéré, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi.
Oui, moi j'ai remarqué par rapport à la semaine dernière, parce que je suis venu en TGV ce matin, il y avait plus de personnes que la semaine dernière qui mettent, notamment des personnes âgées, qui avaient mis un masque dans le TGV.
Tout à fait. Bah, écoutez, la disparité des diagnostics change quand même beaucoup encore avec, selon les infectiologues. C'est dingue. Qu'ils n'arrivent pas à avoir la même analyse. Vous avez des gens qui vous disent c'est rien, d'autres qui vous disent attention, c'est peut-être un mauvais signe.
Bah, ils vous disent ce serait mieux qu'eux. Plus, comme les gens se testent plus, de toute façon, on ne peut pas avoir de bons chiffres. Et en plus, comme les labos étaient en grève la semaine dernière, bah, pour avoir des chiffres normaux, c'est
oui,
c'est
ou dire on ne sait pas exactement, et voilà, que d'affirmer de façon péremptoire, c'est dangereux ou c'est pas du tout dangereux.
Enfin, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout quand même.
Complètement.
Voilà, bon, on est d'accord. L'exclusion du jour.
Exclus des trottoirs, les skateboards, rollers et autres trottinettes non motorisées. Le Conseil national de la sécurité routière qui se réunissait ce matin recommande au gouvernement de sanctuariser les trottoirs et de les réserver aux seuls piétons. Aujourd'hui, plusieurs modes de transport y sont permis. Ils pourraient donc rejoindre la liste des autres déjà interdits, en l'occurrence la trottinette électrique, le vélo ou encore l'overboard. Le contrevenant risque une amende de 135 euros.
Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui était autorisé comme véhicule ?
Aujourd'hui, sur les trottoirs, étant encore toléré, autorisé les skateboards, les rollers, les trottinettes mécaniques, comme on dit, non motorisées. Ah.
Je vous jure que j'hallucine. Et demain, on va avoir l'avis interdit aux piétons d'aller sur l'autoroute, vous voyez. Le trottoir, c'est... Mais oui, mais on en est là, quoi. On est dans une aberration. Le trottoir est fait pour les piétons.
Mais oui.
Et les tolérances étaient devenues absolument insupportables. Alors maintenant,
non, pour un gamin en tricycle, là, bon.
Mais quand tu vas chercher ton gamin à l'école et qu'il y a une petite trottinette,
trottoir...
tu vas pas le mettre sur la route.
Il fallait trottiner dans le jardin.
Les piétons, chez les piétons, les cyclistes, chez les cyclistes, les automobilistes, sur leur voie. Chacun sa voie. Voilà, terminé. Ouais. Et puis c'est tout.
Et les poussettes, on fait quoi? Non, je rigole, évidemment, on les laisse. Il réfléchit.
C'est pas moi, les poussettes. Oui,
si elle n'est pas autorisée, ça va.
Il réfléchit, mais c'est
pas moi. Bah oui, parce que j'essaie de retrouver la mémoire.
Si c'est une poussette électrique, vous vous rendez compte que le bébé s'échappe.
Poussette électrique.
Ça va venir, vous allez voir. Le gamin qui se taille avec la poussette. Alors, deux roues, alors. Poussette à une roue, vous savez.
La capacité à imaginer.
Je m'étonne qu'il
n'y
ait pas de poussette à assistance électrique.
Bah oui.
Vous avez raison.
Ça va venir. Qui tire la grand-mère.
Mathilde Immeur, ça va dans le bon sens ou c'est débile, quoi ?
Moi, je trouve qu'on réglemente trop, là. En fait, le vrai problème, c'est les trottinettes motorisées qui sont parfois sur les trottoirs, où là, oui, c'est un vrai problème.
C'est déjà interdit, ça.
Ça, c'est déjà interdit, mais ça se pratique. Et pour moi, là, on est en train de faire un truc où, pour les 3% qui font n'importe quoi, on est encore en train de faire une loi qui va s'imposer à tout le monde et qui va empêcher... Quand on a un gamin avec sa trottinette mécanique, comme le disait Jérôme, de sortir de l'école avec son père, enfin, je trouve ça un peu stupide.
Oui, et puis d'autant plus qu'en fait, il faudrait quand même avoir des policiers pour verbaliser, parce que si vous n'avez pas de policiers, ça ne changera rien. Donc peut-être qu'avant de mettre cette loi, rajoutons des policiers de proximité.
Ah non, mais désolé, si mes impôts ils doivent servir à mettre un policier dont la spécialisation, ce sera de courir après des trottinettes non électriques pour leur coller des amendes, merci. Autre chose à foutre, les policiers.
Bah là, tu crois qu'ils servent à quoi, tes impôts ?
À pas coller des amendes sur les trottinettes.
Si ils peuvent payer des soignants, des AESH, etc.
Charles Consigny, tout à l'heure au GG, juste avant nous, était furieux en disant qu'on fout la paix. Il était même pour la suppression des feux tricolores. Que les gens se débrouillent, ils sont assez grands pour se débrouiller, qui roulent à gauche, à droite, dessus, dessous. C'est hallucinant, le libéralisme. Le libéralisme, c'est n'importe quoi.
Le chiffre du jour.
72 809, c'est le nombre de personnes détenues dans les prisons de France au 1er novembre, selon les données statistiques du ministère de la Justice. Cela dépasse le précédent record atteint juste avant le confinement, mi-mars 2020. La densité carcérale atteint désormais 120% en France, contre 115,4% il y a un an.
Péricot, on libère ou on crée des prisons ?
C'est indigne de cette République. Il y a le droit du prisonnier. C'est des gens qui ont fait des fautes, qui sont condamnés. Madame Taubira avait supprimé 60 000 places de prison quand elle est arrivée, place Vendôme, garde des Sceaux. Il faut que les détenus aient des conditions de détention acceptables. On est le pays des droits de l'homme, donc le droit du prisonnier. Voilà. Par contre, donc, priorité, quoi qu'il en coûte, des places de prison à fond la caisse autant qu'on peut. Voilà. Par contre, qu'ils exécutent leur peine. Mais pour qu'ils les exécutent dans des conditions où ça évitera peut-être un récidive, qu'ils aient des conditions de détention acceptables. Je connais des rapports qui ont été faits par des organismes humanitaires. La France, de ce côté-là, est un pays du tiers-monde. dans la condition de détention des prisonniers, surpopulation, et ça engendre,
oui,
on le sait...
Mais peut-être que tu dois mettre plus de bracelets électroniques. T'as des gens qui ne sont pas une menace pour la société, qui ont volé de l'argent, etc.
Bien sûr,
et c'est intolérable.
Bien sûr,
mais qui vont pas la aller situation violer, carcérale, tuer,
La situation carcérale de la France est digne d'un pays sous-développé, dictatorial, fasciste, rétrograde.
C'est, ah oui, c'est surtout, ouais, illégal, parce que normalement, c'est... une personne par cellule. C'est l'engagement, les traités internationaux, ça n'a jamais été le cas. On ne l'a jamais respecté. On reporte à chaque fois la mise en œuvre de ces traités qui sont souscrits, je crois, depuis le début du XXe siècle.
Les ravages que ça suppose dans la population carcérale.
D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question.
Si, on dépense.
On dépense pour créer des nouvelles places. Ou alors on se dit, un tel, bah peut-être que sa place, elle n'est pas en prison, mais peut-être qu'elle est avec un bracelet électronique.
Comme aux Pays-Bas. Vois, aux Pays-Bas, on ferme des prisons ou on en transforme même en hôtel. Parce qu'on dit, toutes les personnes qui n'ont pas été condamnées pour atteinte à la personne, eh bien, il y a une alternative à la prison. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de peine.
Le bracelet a été fait parce qu'on n'avait pas cette... La prison, c'est la prison, et je ne souhaite jamais y aller. Le bracelet a été fait parce qu'on n'avait pas assez de place, et il y a des gens qui devraient être incarcérés qui se contentent d'un bracelet.
Mais tu as des gens qui ne sont pas des menaces pour la société.
Y a des gens... Et ensuite, il y a des gens qui sont aujourd'hui en tôle et qui mériteraient peut-être seulement un bracelet. Voilà.
Mathilde Immer.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Jérôme Lavrieux, c'est qu'il y a un moment...
Non,
qu'en partie. C'est-à-dire que les conditions de détention sont horribles, mais parce qu'on met des gens qui n'ont rien à faire en prison, alors qu'ils pourraient faire soit en effet avec un bracelet électronique, soit
regardez Balkany,
les services d'intérêt généraux. Moi, je pense que le travail en prison est aussi, on le voit très bien, dans une bonne manière de faire la passerelle entre le moment carcéral et le retour à la société. Donc, je pense qu'il y a plein de possibilités au-delà du pur carcéral, sauf qu'on a un débat très stérile en France de... Soit tu es pour la prison, soit tu es laxiste. Donc, on est enfermé dans ce truc binaire que je trouve un peu stupide pour ma part.
Ouais, mais après, c'est vrai que le problème, c'est par exemple un accident de voiture, un peu alcoolisé, tue quelqu'un d'autre. Évidemment, toi, en tant que parent du gamin, t'as qu'une envie, c'est qu'il fasse de la prison. Et tu n'accepterais pas de le voir avec juste un bracelet électronique, en fait. Donc, il y a aussi toute.
C'est arrivé à un papa.
Il y a l'émotion qui prend le dessus. Il n'y a que pour les délits financiers ou au final.
C'est arrivé à un papa qui témoignait l'autre jour sur cette antenne, je crois, qui disait qu'il a perdu sa fille écrasée par un chauffard. Elle avait 6 ans. Il a eu 3 ans avec sursis et un enferme avec un bracelet. Donc voilà. Et lui, il continue à vivre. Moi, j'ai perdu ma fille et ma vie. C'est terrible.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que.
Non, mais c'est loin d'être évident. Mais c'est sûr que les initiatives comme celle des Pays-Bas et quelques autres pays, notamment au Nord, qui ont une politique où le tout carcéral n'est pas forcément la solution, on voit bien que ça marche, en fait.
C'est les sociodémocrates.
Non, non. Aux Pays-Bas, c'est condamné à 8 jours. T'as une peine de 8 jours, tu exécutes une peine de 8 jours.
Voilà.
Aux Pays-Bas, on exécute en priorité les courtes peines et les premières peines.
Exactement.
En priorité, pour éviter la récidive. Après, pour le reste, la personne dont on vient de parler, elle ne va pas rester en prison 30 ans. Un jour, elle va sortir. Il vaut mieux peut-être, dès le départ, le faire pointer au commissariat tous les jours pour vérifier qu'il ne sort pas du bistrot, qu'il n'est pas encore en train de picoler et qu'il ne conduit pas sans son permis.
Par exemple.
La bûche du jour.
Oui, c'est le chèque dont bénéficieront 2 600 000 ménages en France. Chèque accordé pour ceux qui se chauffent au bois. Il y a 3 semaines, l'Assemblée nationale avait adopté une enveloppe de 230 millions d'euros pour ceux qui se chauffent avec des bûches ou des pelés, dont les prix ont explosé.
Gabriel Attal. Ça marche aussi ?
Pardon ?
Le pelé, ça marche aussi ?
Oui, absolument. Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, en a précisé les contours de cette aide aujourd'hui. Donc elle ira de 50 à 200 euros, bénéficiera aux Français qui gagnent jusqu'à 2 260 euros par mois pour une personne seule et jusqu'à 4 750 euros pour un couple avec 2 enfants.
Ça va dans le bon sens, ça, ouais. Mathilde Immer.
Bah moi, je suis ravie, puisqu'à titre personnel, du coup, je me chauffe au bois, donc je suis très contente de ça. Oui, ça va dans le bon sens, à condition qu'on ait une réglementation sur le chauffage au bois, et notamment sur tout ce qui est granulé. On voit aujourd'hui qu'il y a un énorme boom et que la filière n'est pas structurée. On a un vrai problème de structuration de la filière.
Je ne sais pas où
est-ce
qu'on va trouver le bois, parce que tout le monde se chauffe au bois désormais. Donc
tout le monde en est loin.
Oui, enfin, les pelets, vous l'avez dit, les pelets, les bûches compressées, ça a explosé.
Et c'est parce que si, on revient aux questions qu'on avait avant, on n'a plus de bûcherons en France. C'est des emplois qui étaient beaucoup occupés par des personnes issues de l'immigration ou immigrées. Aucun Français ne veut le faire parce que les conditions de travail sont horribles. Et donc, comment est-ce qu'on règle ce problème-là ? C'est les conditions de travail qu'il faut changer, les salaires qu'il faut changer. Et c'est vrai pour une bonne partie de la filière.
Ouais. Bah, si on n'a plus de bûcherons, on n'a plus de bois.
Mais si, il y en a encore. Moi, j'habite en Dordogne, des feuillardiers, il y en a plein.
Des quoi ?
Ça s'appelle des feuillardiers. Les bûcherons, c'est ceux qui coupent les arbres pour la scierie, pour tout ça. Ceux qui coupent des arbres pour faire des bûches pour le chauffage, ça s'appelle des feuillardiers.
C'est pas les mêmes.
Oui, mais moi, je te parle de aussi tout ce qui est remplacé de boulot, oui, des conditions de travail horribles.
La seule chose, c'est que pour cette mesure spécifiquement, comment l'État sait avec quoi je me chauffe ?
C'est ça, j'arrive pas à comprendre.
Là, si, il faudra justement. Il faudra aller sur un site internet dédié, un chèqueénergie.fr.
Non, mais c'est sur ma bonne mine, je vais dire oui, j'ai du chauffage.
Il faudra
une facture.
Il faudra rentrer son numéro de télédéclarant, c'est-à-dire son numéro fiscal, et joindre une facture.
D'accord. En fait,
encore une fois, c'est un truc qui se passe sur internet, donc les vieux en sont exclus. C'est-à-dire que vous avez 95 ans, vous vous chauffez au bois, si vous n'avez pas internet, bah, vous n'aurez pas de ristourne. Donc ça va encore être une usine à gaz pour du bois.
Si avec ça, mais je suis d'accord.
Perico.
Bah oui, si avec ça, mais
les
agels sont à cause de ça.
Comme d'habitude. On va terminer avec le retrait du jour.
La FNAC a cédé hier soir l'enseigne à retirer de son catalogue un jeu de société baptisé Antifa, créé par un site internet antifasciste, dans lequel les joueurs incarnent des militants politiques devant réagir à des situations telles que des fachos déclenchent une bagarre dans un bar, avec des cartes action offensive, tractage ou encore manifestation. La veille, le syndicat de commissaires de la police nationale, entre autres, avait dénoncé la commercialisation de ce jeu.
C'est quand même incroyable qu'il l'ait accepté, surtout.
Voilà, alors déjà qu'on l'ait conçu, c'est hallucinant.
Mais c'est ça, moi
Non, mais attendez, là gravissime. On vit quand même dans un monde où à la FNAC, on peut acheter Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler.
Mein Kampf, on sait ce que c'est.
Pour ça 28 euros. Hein, et on est en train de dire qu'on ne peut pas avoir un jeu antifasciste à côté.
Non, on ne peut pas expliquer à des enfants qu'un tel est fasciste. C'est-à-dire le mot fasciste
mais
aujourd'hui.
Mais c'est pas ça le jeu, c'est un jeu de cartes. L'espèce de fake news qui a été créé à nouveau par ce charmant député à Rassemblement National qui avait dit qu'il retourne en Afrique, qui est complètement raciste, et qui en plus, on a découvert qu'il est viticulteur et qu'il embauche des personnes issues de l'immigration sur son propre terrain, donc faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Ce charmant député RN est celui qui est à la source de la fake news dans lequel, soi-disant, il y aurait des cases aller massacrer des députés.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est d'aller créer un jeu. Non, mais en fait, c'est d'aller.
Mais la lutte contre l'extrême droite, évidemment qu'elle doit se faire. C'est une formation à la base.
Et si c'était un jeu qui.
Et pourquoi ? Si c'est pas
un. Si c'était un jeu contre l'extrême gauche,
si c'était un jeu qui interdit.
Alors on va faire un jeu contre le trotskisme, les stalinistes.
Ça, en fait, ça me choque que vous soyez plus choqués par ça.
Tape-toi un gaucho, ça s'appellerait.
Mein Kampf par Hitler.
Non, mais normalement, Mike.
Pourquoi deux mesures ?
Non, je suis désolé. Normalement, légalement, tu ne peux pas et publier et diffuser Mein Kampf. Si ça a été fait, c'est illégal. D'ailleurs, la preuve, la seule boîte d'édition qui a l'autorisation par le gouvernement français de publier Mein Kampf, c'est Fayard, à condition que ce soit une édition commentée et analysée.
Je suis allé sur la FNAC pour regarder. Oui, et ce matin, quand Mein Kampf,
je vais aller vérifier.
C'est totalement illégal.
Oui, c'est un document historique.
Mais en tout cas, elle est.
Normalement, elle est autorisée en
France. Si c'est pas Mein Kampf, le bouquin de l'Australien là, qui avait tué plusieurs milliers de personnes inspirées d'un bouquin que tu trouves à la FNAC, Le Grand Remplacement. Donc il y a un moment où. Pourquoi deux poids, deux mesures, en fait ? Il y a un moment, soit on dit tout est possible.
Non mais moi ça me choque autant que s'il y avait une boîte de jeu qui était dénonce le gaucho du coin ou bastonne un gaucho, etc. Je trouve c'est totalement.
Bon, pour moi c'est la lutte contre l'extrême droite, il n'y a pas marqué bastonne le droitier en fait.
Non, mais l'extrême gauche a tué à peu près autant de gens.
Ouais. Non, mais enfin, c'est pas le débat. De toute façon, c'est fini.
Excusez-moi. Oui, bah, on fait le calcul.
Oui, voilà. Continuons ce débat demain parce que là, c'est trop tard. On est déjà très en retard. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain sur RMC, RMC Story, midi 15h, Estelle Midi. Bonne fin de journée à tous.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.